Et ce matin, je veux qu'on découvre et qu'on redécouvre la louange. Qu'est-ce que ça signifie louer? Pourquoi on fait ça? C'est pourquoi nos réunions ressemblent à ça. Et je vous propose de regarder un texte qu'on trouve dans l'évangile de Jean, où Jésus va parler de louange à quelqu'un. Il va lui expliquer ce qu'est la louange, comment louer. Et en fait, c'est un texte que plusieurs d'entre vous connaissez. C'est un moment où Jésus rencontre une femme, une Samaritaine. Et Jésus la rencontre et entame la discussion avec elle. Et à un moment donné, au cours de la discussion, la femme va lui poser une question. Donc on est dans Jean 4, verset 20 et jusqu'au verset 23. Donc elle lui demande, dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Il y a comme une confusion chez cette femme-là. Elle dit, nos ancêtres disent qu'on doit adorer ici. Vous vous dites qu'on doit adorer à Jérusalem. Il y a comme une confusion. Elle dit, OK, il y en a qui disent ça, les autres le contraire. Et comment ça doit se passer? Je ne sais plus quoi penser. Et peut-être que c'est un peu ton cas ce matin. Par rapport à l'adoration, la louange, tu es un peu confus. Peut-être à cause de ton arrière-plan. Hein, parce que peut-être tu as grandi dans l'église catholique, puis ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on fait ici. Ou peut-être que tu es chrétien depuis un certain temps, puis là, tu commences à en avoir vu pas mal des styles d'église. Hein, puis tu te rends compte que c'est quand même pas mal différent d'une place à l'autre, dans la forme que ça prend. Et je crois que c'est vraiment important de redéfinir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Le dictionnaire Larousse définit la louange comme ceci. La louange, c'est l'action de célébrer le mérite de quelque chose ou de quelqu'un. Et c'est premièrement ce qu'on fait. On célèbre le mérite de Dieu. On rend crédit à Dieu. On rend le crédit à Dieu pour qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il a fait et ce qu'il va faire dans nos vies. Et c'est ce que nous faisons aussi parce que c'est ce que la Bible enseigne. Si on regarde au psaume 100, le psaume 100 dit « Acclame l'Éternel, ô terre entière, servez l'Éternel avec joie, entrez dans sa présence avec des chants joyeux. » Donc il y a une raison pourquoi on commence avec la louange. La Bible nous dit « Entrez dans sa présence avec des chants joyeux. » Sachez que c'est lui seul l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Et nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Encore une fois, entrez sous ses portiques avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage et louez-le pour ce qu'il est. Car l'Éternel est bon, car son amour durera toujours et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. La Bible nous enseigne de commencer nos réunions comme ça. On vient à l'église, on commence par la louange. On commence en regardant à Dieu. Et la réalité, c'est que lorsqu'on arrive le dimanche matin à l'église, on n'est pas toujours dans le mood de chanter des chants joyeux, hein, entrer dans sa présence avec des chants joyeux. On n'est pas toujours dans ce mood-là. Et nous, là, l'équipe de louanges, Karina, Mario, Ben, l'équipe ce matin était petite, là. Mais notre rôle, en gros, là, c'est pas de divertir l'église. C'est pas de faire un spectacle. Notre rôle, en gros, c'est de capter votre attention, puis de la rediriger vers Dieu. C'est pour ça qu'on pratique, c'est pour ça qu'on essaie de faire notre mieux, de bien jouer. On veut capter l'attention, mais la rediriger vers Dieu. Notre rôle, c'est comme de vous dire, Hey, Dieu est bon, Dieu est grand, louons-le ensemble. Et c'est un rôle qu'on essaye de remplir de notre mieux. On pratique, on travaille fort, mais des fois, ça laisse place à. Des fois, en effet, c'est divertissant. Pas plus tard que vendredi, je commence la louange. Vendredi soir, on avait notre réunion de jeunes adultes. Je commence la louange. Est-ce que vous êtes prêts à louer Jésus? Puis là, je me trompe de tonalité. Fait que ça fait un espèce de faux départ, un genre de malaise, mais regarde, on fait notre mieux. C'est des choses qui arrivent. Ou bien, des fois, on se trompe dans les paroles. On en parlait cette semaine à notre pratique. J'ai un ami qui, une fois, a chanté une chanson qui dit tout l'univers déclare ta gloire. Je sais pas si vous connaissez le chant Tout l'univers. Déclare à toi la gloire. Un chant d'Anne Huitaine. Puis lui, en chantant ce chant, il s'est trompé. Au lieu de dire tout l'univers, il a dit tout nu l'hiver. C'était vraiment un beau moment. La présence de Dieu était palpable. C'était magnifique. D'accord, Karina nous racontait que pendant une pratique, c'était correct encore pendant une pratique, mais vous savez, le chant Je te donne tout, je te donne tout. Elle disait, dans le refrain, ça dit Un parfum de valeur sur toi est répandu. Elle a chanté Un parfum de malheur. Est-ce qu'il y a de la joie dans ce lieu ce matin? Amen. Et juste pour un petit moment, parce que c'est ça, on pratique, on travaille fort, mais des fois il faut rire un peu de nous-mêmes, les équipes de louanges là. Alors petit moment d'autodérision, quelques fails de louanges. Souvent ça se passe en arrière, ce qui est intéressant. Your presence in this place, your glory on our face, we're looking to the sky. Descending like a cloud, you're standing with us now, Lord, unveil our eyes. You're the reason we're here, you're the reason we're singing. Open up the heavens, we want to see.
All right, welcome to Sunrise City Church. Why don't you guys go ahead and stand as we begin to worship with God of the Promise today.
C'est bon. Est-ce que vous remarquez que ça marche pas là?
We're going to pause and we're going to start again. Something about that sounded a little weird, as I'm sure you noticed just like me.
En arrière, en arrière. On peut rire de nous-mêmes un petit peu, c'est correct. Je suis sûr que le bassiste, là, il en rit encore aujourd'hui. Je n'ai pas de doute là-dessus. Mais alors, ce matin, je veux un peu qu'on redéfinisse qu'est-ce qu'on fait le dimanche matin, pourquoi on chante, pourquoi on loue. Et je veux déconstruire quelques idées préconçues qu'on a à propos de la louange. Et la première idée qu'on a, qui est pas mal ancrée, qui est normale, c'est que la louange est de la musique. La louange n'est pas de la musique. Gros punch ce matin, la louange, c'est pas de la musique. Depuis tantôt, on parle de chant, on parle de groupe de louanges, mais la louange, l'adoration, ce n'est pas les chants, ce n'est pas la musique. Sais-tu que la louange que nous offrons à Dieu le dimanche matin, là, quand on se réunit, la louange ne se limite pas aux 3 chants et demi qu'on fait entre 10h et 10h20. Et pour comprendre un peu mieux ce que signifie adorer selon la Bible, je vous propose de regarder à quelques termes utilisés dans la Bible qui sont traduits par le mot adoration. Dans l'Ancien Testament, on avait le mot hawa. Hawa. Ok, ça se dit comme ça sûrement. Hawa, qui signifie se prosterner, se courber, donner hommage, adorer. Le mot hadad, qui signifie travailler, performer, servir et adorer. Le mot yare, qui signifie peur, crainte de Dieu et révérence. Donc là, ça englobe pas mal de choses finalement. Dans le Nouveau Testament, on avait le mot proskuneo, qui signifie tomber, se prosterner, adorer sur les genoux avec humilité. Le mot latreuo, qui signifie servir. Et le mot sebomai, qui signifie révérer, être dévoué. Tout ce que nous faisons dans la réunion le dimanche matin est une question d'adoration. Nos prières, on glorifie Dieu par nos prières, notre service, l'exercice de nos dons, quels qu'ils soient, que ce soit de s'occuper des enfants jusqu'à la prédication, c'est une louange qu'on offre à Dieu, c'est quelque chose qu'on offre à Dieu. Tout ce que nous faisons le dimanche matin est question de louange. Parce que ce qu'on fait là, par notre service, par l'exercice de nos dons, c'est qu'on proclame qui Dieu est. On proclame qui Dieu est, on proclame l'évangile, on proclame que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. C'est notre raison de le faire, c'est notre motif. Et nous, chrétiens, là, nous les chrétiens, on est assez... pas ici à Charlevoix, là. Mais habituellement, les chrétiens, on est assez centrés sur nous-mêmes. Et ça se reflète dans notre façon d'envisager les dimanches matins, d'envisager l'Église. Qu'est-ce que j'y gagne? Est-ce que ce genre d'Église me correspond? Est-ce que ça me fait du bien? Ou sinon, on va avoir ce genre de réflexion. Ah, dans cette Église, j'aime pas la louange, comment ils font? Ou, ah, lui, j'aime pas quand c'est lui qui chante. Désolé, c'est moi, c'est toutes les semaines, j'espère que c'est pas trop pire. Ou « Ah, ce matin, je suis fatigué. » Et puis, c'est correct, soyez bénis. Mais parfois, notre perception de l'Église, et dans notre perception de l'Église, dans notre réflexion par rapport à l'Église, c'est comme si Dieu devenait secondaire, en fait. Mais sais-tu que l'Église n'est pas à propos de toi? L'église n'est pas à propos de Dieu, l'église, c'est à propos de nous. Le rassemblement, c'est juste un... Quand j'étais jeune, on disait, avec mes parents, puis on le dit plus maintenant, mais beaucoup, mais quand j'étais jeune, on disait, on va au culte. Puis, tu sais, ben, c'est sûr que le culte, ça a une connotation bizarre un peu aujourd'hui, là, mais c'est quand même ça. On vient offrir un culte à Dieu. On vient pas pour nous, premièrement, là. Et puis oui, Dieu est bon, Dieu nous rencontre, Dieu nous parle, mais on vient premièrement pour rendre un culte d'adoration à Dieu. Et il faut vraiment qu'on comprenne ça comme chrétien. Parce que si tu trouves que la louange est trop courte le dimanche matin, ou trop longue, bah peut-être qu'il faut que tu revoies tes motifs de pourquoi tu es ici. La louange ne se limite pas à la musique, mais par contre, Dieu a choisi la musique comme moyen pour qu'on lui exprime la louange. La musique, en fait, c'est un moyen de transport, si on veut, dont on se sert pour exprimer la louange. Puis là, la question qui s'ensuit, c'est pourquoi la musique ? Hein, pourquoi la musique et pas autre chose ? Je pourrais arriver la semaine prochaine, j'apporte une grande toile, puis on vient tous en avant, on va tous faire un petit dessin de Jésus dessus, à la gloire de Jésus. Hein, on pourrait faire ça ? Pourquoi pas ? Ou bien on pourrait, à l'entrée, chacun, quand vous rentrez, on vous remet un rôle, puis on fait une pièce de théâtre, tu sais ? Une pièce de théâtre qui loue Jésus. Ou, encore mieux, une chorégraphie. L'idée par Denis, bien sûr. Il m'a dit qu'il avait des talents de danseur, là. Non, le moyen dont on se sert pour exprimer notre louange, c'est la musique. Et il y a des raisons à ça. La première raison, c'est que c'est le modèle biblique. Comme on l'a vu tantôt, les psaumes nous invitent à louer Dieu par nos chants. On a aussi l'apôtre Paul dans Éphésiens 5, verset 19, qui nous invite à nous encourager mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Église. Et par ça, on loue le Seigneur de tout notre cœur par des chants et des psaumes. Et si tu es à l'Église, tu as remarqué que dans la louange, c'est pas seulement on chante à Dieu, mais on s'édifie aussi les uns les autres. Puis ça me fait penser à ce que Jésus a dit, que toute la loi est résumée dans deux commandements. Tu aimeras ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Donc l'adoration a cette fonction, louer Dieu, mais aussi édifier l'Église. Exprimer notre amour pour les autres. Ça a aussi cette fonction-là. Deuxièmement, pourquoi la musique ? La musique, ben, c'est quand même un art à part. Et puis je dis pas ça parce que je fais de la musique. Je suis pas un gros consommateur de musique. Je sais pas. Mais la musique est vraiment un art à part et c'est un langage universel. N'importe où tu vas, il y a de la musique. Tu vas à l'épicerie, il y a de la musique. Tu es dans ton auto, il y a de la musique, si tu choisis d'en mettre. On écoute des films. Il y a de la musique. Dans les annonces, il y a de la musique en trame de fond. C'est vraiment un langage universel. Et que tu aimes ça ou pas, la musique, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas écouter de la musique, mais que tu aimes ça ou pas, la musique produit quelque chose en toi lorsque tu en écoutes. Ça peut produire de la joie, ça peut produire de la tristesse, toutes sortes d'émotions. Ça peut produire de la peur, un peu de la tension quand même. Ça peut produire de la nostalgie. C'est vraiment fort la musique. Il y a une étude récente de la Northwestern University qui a démontré que la musique pouvait procurer un sentiment de puissance. Et cette étude est partie du fait qu'ils se sont demandé pourquoi il y avait toujours quel était l'impact de la musique au début des rencontres sportives. Hein, c'est Oh Canada, we stand on. Ok, il se passe quelque chose là. T'es prêt à y aller. Ou l'hymne du Canada, mais l'hymne de la France quand même. Qu'un sang impur abreuve nos sillons. On peut remettre en question l'éthique des paroles, mais tu chantes ça, puis là, t'es prêt à aller au combat, il se passe quelque chose, t'es quand même... La musique a un impact, la musique produit quelque chose en nous, et Dieu se sert de la musique pour nous faire ressentir son amour, pour nous faire ressentir sa fidélité, pour nous encourager dans notre foi, il se passe quelque chose quand on chante. Et non seulement ça, mais encore dans le même sens, la musique unit. Tu sais, tout un stade qui chante la Marseillaise ensemble ou au Canada ensemble. C'est comme, il se passe de quoi là ? On est comme une équipe, on est une nation, puis on va se battre ensemble. Ça unit. Il y a quelque chose, vraiment. Et encore, pourquoi la musique n'est pas autre chose ? À cause de la puissance de la proclamation. Il faut que quelque chose soit dit. Il faut que quelque chose sorte de notre bouche. Il faut ouvrir notre bouche. Dire quelque chose à voix haute n'est pas anodin. Ok ? Lorsqu'on s'est rencontrés, Élise et moi, on a commencé à se rapprocher, on a commencé à sortir ensemble, et moi, de plus en plus, ben, je démontrais mon amour par quoi que ce soit, cadeau ou parce que j'étais bien avec elle, je manifestais mon amour, mais il y a eu un moment où il a fallu que je dise je t'aime Élise. Je pense que c'était mieux pour que ça avance là, il a fallu que je dise ça. Lorsqu'on s'est marié, j'ai dû dire oui, je le veux, puis j'ai dû déclarer des vœux. Il y avait un commentaire à ce niveau-là. Ouais, mais j'ai quand même dû répondre. Oui, vive l'amour, oui. Dire quelque chose à voix haute n'est pas anodin. Il y a une puissance dans la déclaration. Et des fois, tu n'auras pas le goût, des fois, ce sera difficile d'élever ta voix, de parler. Des fois, tu ne seras pas d'humeur. Mais comme le dit le psalmiste, ordonne à ton âme de bénir l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Il y a quelque chose qui doit sortir. Tu dois exprimer ta louange. Parce que des fois, il y a le courant de pensée que ben moi, je loue dans mon cœur. Je loue dans mon cœur. Moi, louer en esprit, en vérité, c'est ça mon truc. Mais Jésus dit aussi que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En d'autres termes, ce que tu dis reflète ce qui est dans ton cœur. Et ce que tu ne dis pas aussi. Et ça m'emmène à mon deuxième point. La deuxième idée préconçue que je veux qu'on déconstruise, c'est que la louange n'est pas réservée à une élite spirituelle ou à un certain type de personne. Et si on revient à notre texte, alors que Jésus s'approche de la Samaritaine, il faut comprendre tout ce qui encadre cette rencontre, tout l'enjeu qui est en arrière. Les Juifs se tenaient loin des Samaritains. Jésus, en bon Juif, là, il aurait En fait, il y avait beaucoup de Juifs qui passaient même pas sur le territoire de la Samarie pour ne pas se souiller, pour pas se rendre impur. Normalement, les Juifs allaient jusqu'à contourner le territoire pour pas se souiller. Et voici la raison. La raison nous est donnée dans le livre de Deux Rois 17, versets 28 à 34. L'un des prêtres qui avait été déporté de Samarie vint s'installer à Bethel et enseigna aux déportés comment adorer l'Éternel. En fait, chacune de ces nations se fabriqua des statues de ses propres divinités. Dans chaque ville où ces gens habitèrent, ils érigèrent ces idoles dans les sanctuaires des hauts lieux bâtis par le peuple de la Samarie. Donc d'un côté, ils rendaient un culte à l'Éternel, mais en même temps, ils continuaient à rendre un culte à leur propre Dieu, selon les coutumes des gens de leur pays d'origine. Donc les Juifs, ils se tenaient loin des Samaritains en disant « Nous, on sait comment adorer Dieu. Nous, on le fait comme il faut. » Puis il y avait des raisons, des bonnes raisons, comme on l'a lu. Mais les Juifs se tenaient loin des Samaritains. Et Jésus vient passer par-dessus cette barrière, il vient changer ça. Et nous, on n'a pas conscience, mais ça, c'était vraiment une barrière intense qu'il y avait, que Jésus vient de franchir. Non seulement ça, un Juif qui parle à un Samaritain, mais en plus un homme qui parle à une femme. C'est comme, ça ne se fait pas, ça ne marche pas du tout. Et là, non seulement un homme qui parle à une femme, mais une femme, dans les versets qui précèdent notre texte, on voit que cette femme a une vie vraiment, une vie dissolue. Elle a une mauvaise réputation. Elle a été mariée 5 fois, puis l'homme avec qui elle partage sa vie actuellement, ce n'est pas son mari. Donc, cette femme, c'était comme le droit d'adorer, je ne suis pas sûr, dans l'Ancien Testament, là, adorer Dieu, venir au temple, venir dans la présence de Dieu, c'était vraiment entouré de plein de rituels. Fait que elle, c'était la dernière à pouvoir s'approcher de Dieu. C'était la rejetée des rejetés. Et Jésus dit non. Maintenant, là, vient le temps où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Où même toi, tu pourras venir adorer Dieu. Et j'aimerais te dire que des fois, on a des idées préconçues à propos de la louange. On a l'impression qu'il faut faire partie d'une élite spirituelle. Hein, que moi, je ne sais pas vraiment comment louer. Et Jésus, il veut renverser ça. Jésus veut te faire entrer dans sa présence comme jamais auparavant. Parce que la louange n'est pas réservée à une élite, n'est pas non plus réservée à un type de personne. Ou un type de personnalité. Je m'explique. Pour certains, tu crois que la louange est réservée aux gens qui sont super émotifs et exubérants. Moi, là, lever les mains en l'air, wow, là, fermer les yeux, puis là, commencer, wow, là. Moi, je suis plutôt réservé. Moi, quand je loue, ben, il faut que je respecte ma personnalité. Puis, je suis à 100% d'accord avec ça. Je dis amen à ça, Dieu nous a créés tous différents. Avec des personnalités, il faut qu'on respecte notre personnalité. On ne s'exprime pas de la même façon et on ne réagit pas non plus de la même façon au chant que nous chantons. Parce qu'on est différent. Quand j'étais jeune, il y avait ce chant qu'on chantait qui disait « Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. » Et le refrain, ça allait comme ça. « Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. » tout près de toi, contre ton cœur. Dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Moi, je voyais toutes les filles qui étaient là, ils chantaient ça comme ça. Mais la plupart des gars ne se sentaient pas vraiment interpellés par ce chant-là. Puis c'est bien correct, c'est une image qui est donnée. Mais on est différent, on ne réagit pas de la même façon, on ne s'exprime pas de la même façon. Donc sûrement que d'autres me rejoindront là-dessus, on ne réagit pas de la même façon. Cependant, on est différent, on a nos personnalités. Par contre, moi je suis parfois émerveillé de voir comment des gens tout à fait normaux changent de personnalité en rentrant dans l'église. Des gens qui sont bien normaux, qui ne sont pas réservés, deviennent les gens les plus réservés du monde alors qu'ils sont pendant la louange. Alors qu'ils sont là pendant la louange. J'avais un ami chrétien, qui était vraiment un fan de l'équipe de France de soccer, ok? Et en 2006, la France fait un super beau parcours en Coupe du Monde. S'il y en a qui se souviennent, c'était l'année du coup de boule de Zidane. Ça vous dit quelque chose, hein? Quand même. La France est allée jusqu'en finale. Et en quart de finale, la France a battu le Brésil. Le Brésil, c'est l'équipe ultime de soccer. Et on l'a écouté ensemble avec cet ami, Marc. Je l'appelle Marc, c'est pas son vrai nom, pour pas qu'il se fasse reconnaître au cas où, je sais pas. Et on était là, on était 10-15 personnes, on écoutait le match. Puis là, la France bat le Brésil, waouh, c'était la fête. Puis là, on se contenait plus, là, c'était vraiment un événement intense pour nous, là. Et Marc, c'était le leader de ça. Il a dit, on peut pas rester là, faut qu'on aille fêter, on va aller au centre-ville, c'est sûr qu'il y a plein de monde dehors. Et en effet, on prend nos voitures, on sort. Et puis là, dehors, c'est la folie, feu d'artifice, tout le monde klaxonne, tout le monde est debout sur les voitures. Et Marc, c'était le gars debout par le toit ouvrant de la voiture avec le drapeau comme ça, qui crie à travers toute la ville. On arrive en ville, on arrive au centre-ville, la place devant la mairie, la grosse foule. Et lui, c'est le genre de gars qui était debout sur un espèce de balustrade, qui avait monté sur quelque chose, qui faisait chanter la Marseillaise à tout le monde. T'es ouais, c'est quelque chose. Un autre événement avec mon ami Marc. On va à une église qui n'est pas notre église. Avec lui, mon ami, puis il y avait un autre ami à moi de l'université, et les deux ne se connaissaient pas. Puis là, on va à cette église, donc, qui n'est pas notre église, et là, la louange commence. Super bon. Le band est bon, puis on a un bon temps de louange. Et comment on était? Moi, j'étais là, il y avait mon ami Marc, et il y avait ensuite mon ami de l'université. Et pendant la louange, ben, mon ami de l'université, ben, il loue Dieu, il passe un bon moment, il a les mains en l'air comme ça. Puis là, il y a mon ami Marc, de même, il me dit... Ouais, pas mal intense ton ami. Puis, moi j'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé? Qui es-tu? Où es-tu? Qui était la personne qui crie sa joie, qui crie la victoire? La France bat le Brésil, ouais! Dieu a vaincu la mort, ouais. Comment est-ce que quelqu'un de tout à fait normal peut devenir si réservé? Et la louange que décrit la Bible, c'est une louange qui fait du bruit, là. Une louange qui dérange des fois. C'est une louange avec des cris, des danses, des tambours, la louange où tu renonces un petit peu à ce de quoi tu as l'air. Une louange passionnée, ça ressemble à ça. Psaume 63. Je crierai de joie en disant tes louanges. Je crierai. C'est quoi un cri, là? Yeah! Ouais, merci, Pierrick. Psaume 104. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Psaume 134. Levez les mains vers le lieu saint. Psaume 149, chantez pour l'Éternel, exultez de joie, éclatez d'allégresse. Il se passe quelque chose là. Mais une louange passionnée, c'est aussi ça. Psaume 6, l'Éternel entend mes pleurs, il exauce mes supplications. Psaume 17, Éternel, écoute ma requête, entends mon cri. C'est peut-être pas le même genre de cri ça. Psaume 3, Éternel, lève-toi au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles mes ennemis, tu casses les dents aux méchants. En veux-tu de l'émotion là? Il y a quelque chose qui se passe. C'est pas propre. C'est pas propre, mais c'est authentique. Et la beauté de la relation que nous avons avec Jésus, c'est que nous pouvons venir à lui tel que nous sommes. Alors viens à lui, puis exprime-toi devant lui tel que tu es. Mais par contre, exprime-toi devant lui tel que tu es. Vous me suivez? Qui es-tu vraiment là devant Dieu? La louange, c'est de rencontrer Dieu. Tu y as accès. Alors je t'invite à renoncer aux apparences, ne te prive pas. Et j'ai inventé une définition de la louange, que j'aime. La louange, c'est quand tout ce que je suis est placé à la lumière de tout ce qu'il est. Tout ce que je suis vraiment tout ce que je suis, placé à la lumière de qui Dieu est. On chante Dieu là, mais avec tout ce qu'on est, avec tout notre être. Donc tout ce que je suis, c'est quoi? Ma personnalité. C'est mes doutes, mes fautes, mes luttes, mes peines, mes souffrances, ma mauvaise estime de moi. C'est mes défis dans mon mariage, mes défis dans mon emploi. Tout ça là, placé devant qui il est. Un Dieu qui console, un Dieu qui restaure, un Dieu qui approuve, un Dieu qui me donne mon identité. Un Dieu tout-puissant, capable de guérir, un Dieu qui m'a purifié. Un Dieu qui a donné son Fils pour que le péché n'ait plus d'emprise sur moi. Un Dieu en qui j'ai une espérance. Un Dieu que peu importe la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, je sais qu'un jour, j'ai une espérance qu'un jour, toute peine sera derrière moi. Toute larme sera effacée. Un Dieu magnifique, majestueux. Et lorsque dans la louange je viens tel que je suis réellement, prêt à avoir l'air de ce que je suis, et que je me place à la lumière de qui il est. C'est ça la louange. Ça laisse place à une rencontre, une vraie rencontre avec Dieu. Et ma prière ce matin, là, c'est que tu puisses rencontrer Dieu. Dieu veut faire son œuvre en toi. Dieu veut te rencontrer. Et finalement, la louange, troisième idée qu'on veut déconstruire, c'est que la louange ne dépend pas d'un moment ou d'un endroit. L'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Par l'Esprit et en vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la louange, c'est un style de vie. Que l'adoration en tant que chrétien est le langage de ta vie. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas aimer l'adoration. Désolé pour toi. Là. C'est comme d'être boulanger et pas aimer le pain. Ça ne fait pas de sens. Ton chant n'a de sens que si toute ta vie en arrière est en accord avec ton chant. Adorer Dieu en vérité, c'est marcher selon Dieu. C'est une vie en soumission, en obéissance à Dieu. Je choisis de me placer sous son regard, de lui obéir, de l'honorer, de vivre conformément à sa volonté. C'est là la vraie adoration. Et mon adoration, je peux lui offrir. Parce que son esprit est là. Son esprit est avec moi. Et on reconnaît que parfois que notre vie n'est pas un merveilleux chant de louange. Il y a des fausses notes parfois. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre chant, notre louange est acceptée à cause de Christ. Oui, je veux honorer Dieu, oui, je veux lui obéir, mais ma louange, le chant de ma vie est accepté par Dieu parce que ma vie a été justifiée, rachetée par la vie parfaite de Christ. Christ qui vit en moi, Christ qui est la vérité. Donc il rend le chant de ma vie, il rend ma louange vraie, pure, parfaite. Une louange qui sonne bien. Jésus vient ici poser une nouvelle norme. Ce qui compte, ce n'est plus l'endroit, ni le moment, ce n'est pas le rituel, ce n'est pas le nombre de notre Père, mais la condition de ton cœur dans chaque sphère de ta vie. Ce qui compte dorénavant, c'est que dans chaque instant de ta vie, je sois le seul Dieu. Peut-être qu'à l'image du peuple samaritain, Dieu est dans ta vie, mais il y a aussi d'autres choses dans ta vie. Mais Dieu veut la première place. Il veut la première place et il veut toute la place aussi. Il est comme ça. Peut-être que Dieu a touché ton cœur et peut-être qu'il a commencé une œuvre en toi, mais il est temps que tu ailles plus loin. Je prie pour que tu puisses aller plus loin. Il veut te connaître intimement, personnellement, il veut te rencontrer à nouveau. Et c'est pour ça que la louange doit faire partie intégrante de ta vie, parce que c'est comme ça, c'est avec la louange, avec adoration qu'on rencontre Dieu. Je rencontre Dieu lorsque tout ce que je suis réellement, toute ma vie, est placée à sa lumière. Et la louange, c'est puissant. C'est vraiment spécial. La louange, c'est incroyable. Moi, je suis fasciné en tant qu'auteur de chant. Je suis fasciné de voir à quel point un chant, tu peux le faire, tu vis un moment avec Dieu, puis après, quelqu'un va se l'approprier dans une situation totalement différente et le chant va prendre une dimension différente. Récemment, je pense dans la dernière année ou dernier deux ans, il y a l'église La Chapelle qui a écrit un chant qui s'appelle Plus haut. Le chant « Rien n'est plus haut que la croix ». Et moi, quand j'ai découvert ce chant, c'était comme « Waouh !» Vraiment une belle déclaration. Ça me donne envie de faire confiance à Dieu. Et le chant, l'original, là, c'est comme un chant avec gros rock, grosse guitare, du drum. C'est bon, là, c'est intense. Je suis pas sûr que ça plaira à tout le monde, mais c'est bon. Et ce chant-là, récemment, plusieurs d'entre vous savent que je suis allé visiter mon père qui est malade. Et Je passais du temps à côté de lui. La seule position dans laquelle il est bien, il est couché sur son ventre. Il a un cancer, puis il est vraiment avancé, et c'est très souffrant. La seule position dans laquelle il souffre pas trop, c'est couché sur le ventre, dans son lit. Et alors j'ai passé beaucoup de temps avec lui, comme ça, on jasait, tu sais, puis il me faisait, mon père, c'est un musicien, puis il me faisait écouter des chants qu'il aime bien, des chants de louange. Il me dit un chant, là, mon chant préféré en ce moment, c'est ce chant-là, il me sort ce chant-là. Puis c'était une version un peu plus soft piano, là. Et dans ce moment-là, il n'y avait pas de grosse guitare, il n'y avait pas de gros drum. Et il me fait écouter ce chant-là, puis là, il se met à chanter, voix toute faible. Rien n'est plus haut que la croix. Là, ce n'était pas le chant juste de célébration de la croix, là. C'était comme juste quelqu'un à bout de sa vie, là, qui dit j'ai une espérance pareille. C'est à ça que je m'approche, que je m'accroche. La louange est puissante, là. Ma prière pour toi, c'est vraiment que tu puisses découvrir la présence de Dieu, en fait. C'est ça l'adoration. Que tu puisses aller plus loin et que les chants qu'on chante le dimanche matin ne soient pas juste des belles prières, là, mais que ce soit tes prières, que ce soit ton chant. Et on va finir en écoutant ce chant-là, Rien n'est plus haut que la croix. Et c'est un chant qu'on a jamais chanté ici. Mais vous allez voir que c'est très simple, puis je t'invite à en faire ton chant. Et encore, écoutez les paroles, c'est juste tel que je suis là, rien à cacher. Je viens faire ma louange. Donc viens à lui tel que tu es ce matin, sans filtre. Est-ce que tu es prêt à t'abandonner? Laisser toute la place à Jésus. Puis devant Dieu, là, c'est comme j'ai rien à prouver. Puis je prie que tu arrives à ce stade-là, si ce n'est pas encore le cas. Que tu découvres ou que tu redécouvres la louange. J'ai rien à prouver, rien à cacher. Seigneur, je suis à toi.